Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour à Sète, ou plus exactement dans son agglomération de 14 communes, dénommée Sète Aglopole Méditerranée. Non pas pour profiter des attraits de l'île singulière célébrée par Paul Valéry, mais pour découvrir comment se présentent le présent et le futur de ce territoire, en particulier dans ses relations avec l'agglomération de Montpellier. Pour nous servir de guide, j'ai invité un Sétois, certes né à Montpellier, un de ceux qui se penchent de près sur ces questions. Bruno Arbouet, vous êtes le président du Conseil de développement de Sète Aglopole Méditerranée, l'instance de concertation placée aux côtés des élus du Conseil communautaire. Je vous remercie d'être venu au micro de Divergence. Avant de prendre une retraite active à Sète, vous étiez directeur général du groupe Action Logement, piloté par les représentants des employeurs et ceux des salariés. Votre parcours vous a conduit notamment à des postes de responsabilité nationale dans le groupe Caisse des dépôts et à l'Agence des services à la personne. Vous présidez donc le Conseil de développement, le CODEV, depuis novembre 2021. Vous avez une vue plus large, régionale, puisque vous co-présidez le réseau des conseils de développement d'Occitanie, ainsi que sur le plan français, vous co-présidez la coordination nationale des 127 conseils de développement. Mais avant que nous embarquiez du côté de Sète, racontez-nous, vous êtes natif de Montpellier, d'abord, comment vous voyez la ville? Vous la connaissez de longue date, puisque notamment de 1983 à 1986, vous avez été le directeur de cabinet du président du conseil régional, Robert Capdeville. À votre tour donc d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Bruno Arbouet, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Oui, alors bonjour. Écoutez, je suis né très précisément à La Chamberthe, au moment où ce quartier était créé.
Donc, vous voyez, ah oui, d'accord.
Il y a bien longtemps. Voilà. Ma toute prime jeunesse, je l'ai passée dans des quartiers très populaires, là où habitaient mes grands-parents. D'abord à Figuerolles, oui. Mes grands-parents paternels, donc un quartier éminemment sympathique.
Voilà, qui reste populaire, qui est devenu un peu bobo, mais bon.
Voilà. Et puis, un autre souvenir, c'est la rue d'Alger, où il y avait ma grand-mère qui habitait au-dessus des rotatives de Millilibre.
Ah, d'accord.
Voilà, donc j'ai connu donc
l'atmosphère particulière de cette rue que j'ai connue moi-même, parce que j'ai commencé ma carrière de journaliste quand Midi-Libre était rue d'Alger.
Voilà, donc Montpellier, évidemment, donc je l'ai redécouvert, vous l'avez dit, dans les années 80-85. C'était une ville particulièrement dynamique. Georges Frêche en était déjà le maire.
Oui, depuis 78.
Voilà, depuis 78, c'était le vice-président à la région. Donc une ville passionnante par ses projets, par ses ambitions, par ses... Bon, au-delà du fait que, moi, ce qui me plaît, c'est en particulier, au-delà de sa population, c'est ce territoire entre la mer, les Garrigues, le Pic-Saint-Loup, voilà. Donc tout ça, c'est ma jeunesse,
voilà,
mes repères familiaux, voilà.
Alors, deuxième question, bon, on a élargi là aussi le champ. Vous connaissez bien sûr d'autres villes. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise Montpellier? Qu'est-ce qui la distingue dans son être, dans sa manière de peut-être de se développer ou dans l'atmosphère qu'on y trouve?
Alors, Montpellier, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un dynamisme incroyable. Moi qui m'intéresse aux questions urbaines, c'est quand même une des rares villes en France qui est passée des années 60 à 70, une ville endormie, de taille très modeste, à une vraie métropole. Donc les maires successifs ont fait un travail, me semble-t-il, remarquable. D'une part. D'autre part, c'est une jeunesse qui...
Oui, c'est 50 000 étudiants.
Voilà, donc ça, c'est extrêmement, extrêmement rare. Et c'est une ville où il fait bon vivre, quoi. Voilà. Donc il y a une qualité de vie particulièrement intéressante. Des bons restos, des bons... Voilà. On s'y plaît.
Donc vous venez donc de temps en temps à Montpellier, comme,
je viens
comme d'autres, c'est toi, j'imagine.
Je viens y retrouver ma mère et ma fille.
Très bien. Alors merci. Alors faisons-en ce qui vous a conduit à ce micro. Les conseils de développement ont été installés dans les intercommunalités de plus de 50 000 habitants par la loi de 1999, loi d'orientation pour le développement et l'aménagement durable du territoire, dite loi Voynet, Dominique Voynet, qui était alors ministre de l'Environnement. Alors, ce que je vous propose, Bruno Arbouet, c'est de fournir quelques repères aux auditrices et aux auditeurs. Et d'abord, dites-nous quelles sont les grandes missions du CODEF.
Alors, un conseil de développement, c'est une instance consultative. C'est-à-dire que contrairement aux élus, qui ont une légitimité électorale issue du suffrage universel, nous, notre légitimité, c'est d'exprimer une parole citoyenne qui se veut constructive, on y reviendra peut-être, mais qui est une parole libre et qui a comme objet d'éclairer la décision politique, donc d'éclairer les élus dans leurs décisions. Ce qu'on caractérise souvent les conseils de développement par un débat citoyen qui ne s'intéresse pas nécessairement aux questions de très court terme, mais plutôt à la prospective.
C'est-à-dire voilà, vous regardez plus loin.
Plus loin, donc.
Et 10, notamment plus loin que le mandat des élus, dans lequel les élus se situent.
Voilà. Alors, la composition, on essaie d'avoir une représentation qui soit la plus objective et la plus représentative, même si le terme scientifique est évidemment inexact. Mais on s'attache par exemple à ce que toutes les communes soient représentées.
Les 14 communes.
On s'attache à ce qu'il y ait un minimum de parité. On s'attache à ce que sociologiquement, socialement, l'ensemble des classes d'âge, etc. Et on y arrive à peu près.
Compris les secteurs d'activité, principaux secteurs d'activité.
Voilà, les principaux
aussi.
Secteurs d'activité.
Donc ça fait un croisement de critères qui produit.
Nous ne sommes que des bénévoles, évidemment. On y passe beaucoup de temps, généralement.
Ah oui, ça, j'ai retrouvé un chiffre, je vais le donner. Puis, dans un rapport d'activité de 2022, j'imagine que ça n'a pas beaucoup changé depuis. Plus de 4500 heures cumulées. 4 groupes de travail par grand thème, 86 réunions, 5 conférences thématiques avec des experts. Donc, ça bosse, alors.
Voilà, ça bosse. Ça bosse, il faut peut-être le dire, dans un esprit plutôt convivial, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de vraies polémiques, de vrais désaccords, parce qu'on s'intéresse à quelques sujets de société importants,
qu'ils
soient techniques, politiques, etc. Il n'y a pas de barrage à l'entrée. Je veux immédiatement la crever, peut-être une image qu'on pourrait avoir. Les conseils de développement, ce n'est pas le recueil de toutes les oppositions de la collectivité, de l'intercommunalité, et ce n'est pas non plus la parole bêlante,
béni oui.
Voilà. Donc on est sur
Il y a cette ligne de crête de D'être utile, d'être concret.
D'être utile, d'être concret et d'être plutôt constructif. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la crise démocratique que nous traversons,
on en reparlera peut-être,
on est attentif à ce que notre parole soit utile. Et donc, pour être utile, on se dit qu'il vaut mieux cultiver, on a un petit jargon entre nous, mais il vaut mieux cultiver les enthousiasmes que les colères.
Oui.
Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut nier les colères, mais l'idée, c'est plutôt de démontrer que des compromis, sinon des consensus, sont possibles sur un certain nombre de sujets de moyen long terme. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, il nous semble qu'on fait œuvre utile, et c'est en ce sens qu'on dit souvent que nous, ce qu'on représente, c'est plutôt la démocratie dite participative, elle renforce la démocratie représentative. C'est-à-dire donc le rôle des élus. Il n'y a pas d'opposition dans notre esprit entre eux, il n'y a pas d'ambiguïté.
Alors, ça, on en parlera. Bon, ça sera probablement ma dernière question, parce que c'est un vrai sujet dans notre pays. Mm-hmm. Alors, j'ai retenu la formule quand même, cultiver les enthousiasmes plutôt que les colères. Alors ça, pour le coup, c'est assez différent du spectacle médiatique et politique auquel on assiste ces dernières années, où il y a eu, on le sait bien, une crispation, où l'invective, y compris dans les réseaux sociaux et pas seulement, a pris une grande place. Et donc, il y a un fonctionnement plus apaisé au sein du CODEF.
Il y a un fonctionnement. Alors, il y a à la fois de vrais affrontements, qui font l'objet d'explications, qui font l'objet d'échanges, d'argumentations, etc. Et on tend à identifier des pistes de compromis, et quand il n'y a pas de compromis, d'ailleurs, à ce moment-là, chacun restant sur ses positions, mais toujours dans un cadre apaisé et plutôt constructif.
Mais est-ce que ça vous conduit, par exemple, à faire apparaître deux points de vue très différents sur tel ou tel sujet, dans votre rapport?
Voilà, sur certains sujets, ça, on peut être, amené
à constater le désaccord, mais avec une série d'arguments pour chacun de ces deux positions. Très bien. Alors, le CODES se saisit d'un sujet de deux manières. Soit son initiative, on appelle ça, les juristes appellent ça autosaisine, soit sur demande du président de cette agglopole méditerranée, à savoir actuellement le maire de Sète, François Comé. Alors, donnez-nous quelques exemples des sujets que les deux formules vous ont conduit à travailler.
Donc, très concrètement, on est saisi de façon quasi systématique. Pardon, je fais juste une parenthèse. Le conseil de développement de Sète est un conseil qui existe depuis déjà plusieurs années. Oui. Donc il y a une vitalité démocratique sur ce territoire qui est peut-être
un acquis.
Qui est un acquis qui est incontestable. Alors, on est saisi donc pour avis sur tous les documents un peu prospectifs. Alors, les documents prospectifs sont des documents de planification, d'aménagement,
le SCOT, le schéma d'orientation territoriale,
le PDU, le plan de déplacement urbain, le plan concernant l'habitat, tout ce qui dessine
les grands outils français, dont les collectivités sur leurs compétences se saisissent et qui structurent La réflexion, la programmation.
La programmation,
y compris budgétaire, sur un certain nombre de projets d'aménagement et d'équipement, notamment.
Et puis il y a d'autres sujets sur lesquels on s'auto-saisit, c'est-à-dire qu'on estime qu'on a un mot à dire sur une question particulière. Alors c'est plutôt à ce moment-là sur un sujet plus particulier. On en parlera peut-être, par exemple, on est en débat actuellement sur la question de la nouvelle ligne à grande vitesse qui doit traverser notre territoire.
À votre initiative, donc, pour le coup.
Oui.
Voilà. Et par exemple, vous avez travaillé sur le schéma de développement culturel, là, il y a quelques années. Pareil, ça, c'est parce que c'est venu de vous, là, consacrer du temps et des efforts à ce type de sujet.
C'est-à-dire qu'on est attentif à pousser les élus au bout, quelquefois, sortir un peu de la langue de bois ou sortir des discours un peu prémâchés, convenus. Par exemple, on est tous plutôt convaincus de la nécessité d'avoir un développement sobre en matière foncière, par exemple, en matière de développement. Donc, on est assez préoccupé par tous les sujets de développement, le réchauffement climatique, etc. Et en même temps, on est les premiers à dire, parce qu'on est des citoyens implantés sur ces territoires où il y a un taux de chômage important, où les enfants qui suivent leur scolarité à 7, généralement ne trouvent pas d'emploi parce qu'il y a un taux de chômage, donc quittent le territoire. Voilà. Et donc pour ça, il y a besoin de créer de l'activité, il y a besoin de créer de l'emploi. Et créer de l'emploi, comment ça s'articule avec justement ces impératifs écologique. Voilà. Donc ces sujets-là, on essaie de les pousser au bout. Voyez.
Donc ça veut dire repérer des enjeux importants pour le territoire, qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont dans l'actualité du moment, qui sont peut-être même pas, qui figurent même pas dans les programmes électoraux à l'approche des élections, mais nous vont considérer qu'ils sont structurants.
Tout à fait. Je prends un exemple. Par exemple, il y a à 7, il y a la question identitaire est très très forte. Hein, on est très attentif à préserver. Donc, dans l'identité, il y a l'histoire, etc. Mais il y a aussi le rejet de l'autre. Il y a aussi, est envahi. Il y a aussi, il y a trop de monde, il y a trop de touristes, il y a trop d'activités. Voilà. Donc, ces sujets-là, ce qu'on essaie, c'est d'essayer de concilier ce qui est difficilement conciliable.
Oui, parce que c'est un sujet sensible, ça.
Bien sûr. C'est des sujets sur lesquels, au moment où on est confronté à quelques populismes, où il y a un rejet de l'étranger, un rejet de la diversité, etc., on est attentif à voir comment on tisse des liens et on renforce les solidarités locales en préservant le développement.
Très bien. Alors, on a vu dans ça maintenant sur ce que vous faites et comment vous travaillez. Alors, abordons un sujet que vous avez évoqué, il concerne aussi les Montpellierains, c'est le projet de nouvelle ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan. En travaillant là-dessus, vous avez conclu que le tracé, je cite, « ne correspond pas aux attentes et aux besoins des habitants ». Donc, pourquoi et quelle contre-proposition avez-vous présenté sur ce grand sujet structurant, pour reprendre mon mot de tout à l'heure ?
Alors, la première remarque, c'est toute la difficulté de l'expression du codef, c'est-à-dire on essaie d'éviter de tomber dans la caricature. Il est évident que ce projet, il est utile et la région, la France, l'Europe et donc le territoire de Sète en a besoin. Donc, premièrement,
il n'y a pas de débat là-dessus.
Voilà, on n'est pas opposé à une ligne nouvelle. On est très réticent sur le tracé qui a été retenu dans le cadre de la DUP et dans lequel...
DUP, déclaration d'utilité publique, voilà, j'ai traduit au passage, donc, qui se traduit, un document qui, voilà, qui fonde le lancement des
chantiers. Voilà, qui se traduit par deux choses essentiellement. D'une part, on va être un territoire traversé et plus desservi. Bon. On sait que dans l'histoire de l'urbanisme en France, les territoires qui ont été oubliés par... les grands axes de communication, eh bien, ce sont des territoires qui sont condamnés. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un viaduc au-dessus de l'étang de Thau qui sera une véritable balafre de notre territoire.
Donc dans un paysage
voilà,
très
qui
important.
Voilà, qui est de grande qualité. Donc on a fait un travail en disant revenons à ce qu'était la proposition de la SNCF il y a 15 ans.
Ah oui.
C'est-à-dire revenons à un tracé... définie par la SNCF elle-même, où la vitesse ne serait plus à 320 km à l'heure, mais à 220 km à l'heure, cette vitesse étant celle entre aujourd'hui Valence et Montpellier, ou entre celle qui existe aujourd'hui entre Barcelone et la frontière espagnole. Donc il n'y a aucune raison...
Donc
que
c'est une vitesse...
de très grande vitesse.
Voilà, et au caractère commercial, je dirais, voilà, qui reste bon.
Quoi. Voilà. Et qui permettrait donc une desserte de notre territoire, puisque, on le sait, la ligne SNCF actuelle en bord de mer est condamnée du fait du réchauffement climatique et des risques de submersion marine. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous n'avons aucune assurance aujourd'hui concernant la question de la desserte de notre territoire. Et donc, une des propositions qu'on pourrait imaginer, c'est que la gare actuelle de Montpellier, sud de France, devienne la gare 7-Montpellier. Montpellier 7.
Parce qu'elle est à l'ouest de Montpellier.
Voilà, elle est à l'ouest et il suffirait qu'un cadencement de navette.
Ah oui, ça fait, une petite demi-heure, voire moins, là, d'un cadencement.
Voilà. Donc voilà des propositions qui ne coûtent rien, voire en ce qui concerne le changement de tracé qui ferait faire une économie de 1 milliard d'euros. Donc, par les temps qui courent, ce n'est pas rien. Voilà. Et on devrait pouvoir retrouver les termes d'un débat apaisé et ne pas se lancer dans des invectives avec des arguments d'autorité en disant « circuler, il n'y a plus rien à voir ». Voilà.
Bien. Alors, on poursuit. J'avais prévu une autre question, mais j'y reviendrai peut-être sur le travail que vous avez fait sur les friches industrielles près de l'étang de Thau laissées par le départ de la Farge de Montgolfier. Mais j'en reviens, je l'évoquais au début, à une question qui pourra intéresser nos auditeurs, que je formule ainsi. La nécessité d'une coopération active et mutuellement fructueuse entre les agglomérations de Sète et de Montpellier semble être une évidence. Pourtant, il semble qu'on en soit loin. Ainsi, l'idée que le port de Montpellier, c'est Sète, n'est pas mise sur la table. Alors, Bruno Arbouet, quel serait, selon vous, l'intérêt d'un travail commun et quels sont les obstacles à lever?
Alors, la première chose, c'est de constater que la réalité économique, la réalité sociale, la réalité de vie des habitants de Sète en particulier, traverse les frontières administratives. Ne s'arrête pas à Mirval ou ne s'arrête pas...
Il suffit de regarder la carte.
Il suffit de voir le nombre de voitures qui circulent le matin. Voilà. Donc, nombreux sont ceux qui travaillent d'un côté et qui habitent de l'autre. Donc, il est clair que la question du territoire, de ce qu'on appelle un projet de Grand Montpellier, est sur la table. C'est un sujet, alors je ne sais pas si c'est un sujet à 3 ans, à 5 ans ou à 20 ans, mais c'est incontestablement un sujet. Donc, on a pris l'initiative... puisqu'on a la chance sur ce territoire d'avoir les cinq intercommunalités, l'étang de l'Or, le Pic Saint-Loup, Cœur d'Hérault,
Lunel et
Montpellier. Donc, on dispose d'un conseil de développement. Donc, nous nous sommes réunis, je crois que vous, un de vos invités récemment était Christophe Carniel, voilà, donc
qui co-préside le CODEF de Montpellier.
De Montpellier, avec qui on a des relations de grande complicité et de grande confiance. Et donc, on essaie de bâtir un certain nombre de pistes de travail, donc autour de la mobilité, autour de la gouvernance, autour de la résilience. Enfin bon, voilà. Et donc, ces groupes de travail sont au travail là maintenant depuis l'automne dernier, et donc on devrait...
Ah oui, ça a démarré il y a seulement quelques mois, donc
c'est assez récent, et on devrait être en capacité, avant l'été, de faire des propositions concrètes. Ouais,
De mettre la question sur la table. Alors, ça me semble coïncider avec ce qu'a fait l'actuel maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui a, sans bousculer les frontières actuelles de ce qu'est la métropole de Montpellier, a fait en sorte que des coopérations s'installent avec les intercommunalités que vous avez citées, d'abord dans la mobilisation pour la candidature Montpellier, capitale européenne de la culture, et plus également sur un sujet qui se perpétue, qui est la question des transports en commun, des mobilités, où le travail se fait pour voir comment les réseaux s'interconnectent, la billetterie devient la même, etc. Donc c'est la même logique, je dirais, assez évidente en quelque sorte, de coopération où on n'oublie pas les frontières administratives ou les découpages actuels, mais on travaille de concert.
Moi, il me semble que c'est une démarche, alors effectivement, qui a été initiée sur un sujet particulier, qui a été cette fameuse candidature européenne de la culture. Mais moi, je tiens à souligner là, le courage de Michael Delafosse et de François Comaigne, que tout oppose politiquement, mais qui, sur le fond, porte voilà, une vision de moyen long terme, partagée, et qui partage une ambition forte. Et il me semble qu'ils font œuvre utile en travaillant en ce sens. Oui.
Bon, ben, on va suivre ça, donc. Alors, vos avis, vos rapports, c'est la manière dont se traduit votre travail, ont souvent pour caractéristique, vous l'avez dit, de conjuguer deux préoccupations, le développement de l'économie et la préservation de l'environnement. Alors, cette grande orientation, on ne la trouve pas toujours ailleurs, encore que ça bouge un peu. Qu'est-ce que ce travail-là de penser conjointement ces deux impératifs, et donc c'est avec les difficultés qu'ils comportent, c'est dû aux caractéristiques particulières du territoire, peut-être à des fragilités d'espace naturel particulièrement fortes, mais aussi tout simplement à ce qu'est l'opinion consensuelle ou majoritaire des membres du CODEF qui pensent le devenir du territoire, encore une fois, à moyen terme, voire à long terme, sur ces bases. Qu'est-ce qui détermine votre orientation là sur ce sujet, qui vaut pour la plupart des sujets que vous avez abordés d'ailleurs.
Ce qu'on essaie, c'est de faire toujours un pas de côté. C'est-à-dire que souvent, les positions sont tranchées entre ceux qui défendent et veulent valoriser l'environnement et ceux qui, au contraire, veulent développer à tout craint au détriment de cet environnement. Alors, au-delà des posture un peu caricaturale qu'on a dans les débats politiciens, nous, il nous semble qu'on peut rendre compatibles les deux choses. C'est-à-dire on est dans un territoire particulièrement fragile. La lagune de Thau, l'étang de Thau, est quelque chose qui est d'une richesse incroyable, mais qui est menacé au quotidien, hein, y compris ses activités conchylicoles ou autres. On a les problématiques d'incendie, on a les problématiques de réchauffement climatique assez classiques, on a les problématiques de submersion marine, on a des problématiques de l'eau. Donc tout ça nécessite un regard très attentif à ce que tout le développement qu'on peut imaginer ne vienne pas perturber ou amplifier ces risques-là. Mais on a besoin de développement, puisque, comme je l'ai dit, on a un taux de chômage qui, même s'il s'est amélioré, reste quand même important. Et donc, on a besoin d'offrir, en particulier à nos enfants, puisque le flux migratoire qui arrive, c'est plutôt des retraités un peu aisés. Bon, donc, et ça, ce sont des évolutions...
Oui, le flux migratoire interne à
la France, voilà. Par contre, oui. Par contre, il y a un vrai sujet d'avenir qui concerne nos enfants, enfin les enfants de ceux qui habitent à Sète et ce territoire-là doit pouvoir leur proposer une activité, des emplois et de la création de valeurs et de richesses. Donc, rendre compatible ça, c'est possible parce que sur Sète, on a un atout particulier que n'a pas Montpellier. Et c'est, de mon point de vue, un des éléments de complémentarité entre Montpellier et Sète, c'est la question des friches industrielles. C'est-à-dire que, par définition, une friche industrielle, c'est un territoire qui a déjà été construit. Donc, en termes...
Oui, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de sujet,
d'altération du milieu naturel. Oui.
Voilà. Et donc, entre les friches, les anciennes friches industrielles, ferroviaires, enfin, etc., qui peuvent exister sur notre territoire, c'est à peu près de l'ordre de plus de 5 hectares que sur le moyen terme, on peut mettre à l'urbanisation. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant, a fortiori, alors évidemment pour Sète, mais pour Montpellier également,
qui manque de terrain.
Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y a probablement un travail à conduire.
Du coup, d'intérêt commun, chacun pour sa part. Penser le territoire... Et favoriser l'accueil d'entreprises, le développement des entreprises existantes dans ces friches industrielles. Très bien. Alors, vous l'avez un peu évoqué, donc, vous avez évoqué les risques, les menaces sur le plan environnemental. Est-ce qu'il y en a d'autres sur le plan économique, sur le plan politique ou social qui font partie, je dirais, du diagnostic du territoire que votre travail permet d'élaborer ? Risques et peut-être aussi des atouts, après tout, comme vous venez de le dire.
Moi, si vous voulez, nous, on est aux côtés des élus pour tenter de les accompagner dans leur réflexion un peu prospective. Je dis quelquefois, alors on me reproche quelquefois d'être un peu trop sévère, mais c'est pas contre les élus. C'est que je constate que le débat politique est souvent moyen, voire médiocre. Or, les enjeux auxquels nous sommes confrontés nécessiteraient probablement de relever un peu la tête ou le niveau des échanges. Et donc, on s'est lancé dans un travail qu'on a appelé « Portrait de territoire ». L'idée, c'est de définir ce que pourrait être un territoire désirable, plutôt que de se battre sur un projet qui fait l'actualité de Sète, là, sur un projet de parking, dire par exemple comment on affronte la question de la mobilité sur ce territoire. Voilà, et incontestablement, les caractéristiques,
il y a des besoins, des
complexités, etc. Et donc là, l'idée, c'est de définir ce portrait, donc cette ambition que nous portons à moyen terme, et de le proposer aux futurs candidats au municipal, pour qu'ils puissent nous dire comment ils se positionnent, etc. Par exemple, sur la question de... Quand on voit un territoire comme celui de Sète, qui est la juxtaposition de flux migratoires italiens, espagnols...
Multiséculaires,
etc. C'est un territoire incontestablement ouvert, qui ne peut pas entendre les polémiques sur le rejet de l'autre,
ou la fermeture,
etc. Donc l'avenir reste dans l'ouverture, et c'est pas une vision bêlante ou enfantine sur le sujet. Mais voilà, c'est l'idée, c'est qu'on est un
simplement
port.
Simplement réaliste.
On est un port, et un port, c'est ouvert au monde, quoi.
Voilà. Alors on arrive à la fin, la bonne heure. Donc du coup, je vous pose ma dernière question. Dans un rapport d'activité, vous écriviez, je vous cite, mais comme ça on comprendra votre point de vue, donc que dit Bruno Arbouet dans ce texte, « À l'heure où la défiance envers les institutions s'accroît, où la démocratie est en crise, et où le débat public est souvent asphyxié, les conseils de développement tentent de faire vivre une parole citoyenne innovante, vous l'avez dit, quelquefois rugueuse, c'est-à-dire franche, voire impertinente, dites-vous toujours, mais toujours dialoguante et constructive. Est-ce que cette conviction, fondée d'ailleurs sur une inquiétude, est-ce la raison principale de votre engagement au CODEV ? Cette préoccupation citoyenne, je dis.
Moi, c'est à titre personnel, chacun peut y trouver, peut avoir des démarches très particulières. Moi, ce qui a été le moteur dans mon engagement auprès du Conseil de développement, quand j'ai répondu favorablement au président de l'agglomération qui m'a sollicité, c'était ça. C'est-à-dire que je voyais, il y avait une anxiété sur la crise démocratique, sur le désenchantement, sur le fait que les jeunes se désintéressent de la chose publique, que le niveau des votes sont extrêmement bas. Donc, il me semble qu'on peut redonner de l'espoir si on parle des choses concrètes, des choses un peu d'avenir, qui parlent à chacun d'entre nous, au-delà des postures, des polémiques stériles, voire même des injures ou des invectives dont le Parlement s'est particulièrement illustré ces derniers mois.
Voilà, ben écoutez, on vous a entendu, mais Bruno, on a compris un peu comment vous-même, vous l'avez évoqué un instant, expliquer cet investissement. Donc merci et peut-être une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une Montpellieraine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.